Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Pierre Ducrot, Olivier Nerbia, Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge avec nous. On a toujours Alex qui est là. Parce qu'il faut quand même qu'on parle aussi des points faibles de la Belgique.
Bien sûr.
Il y a quand même un problème défensif.
Il y a un vrai problème
pourtant,
défensif.
Pourtant, c'est que t'as les mecs d'expérience. Et Meunier est pas mal critiqué, je trouve, depuis le début de la Coupe du Monde. Alors que moi, je trouve pas si cataclysmique que ça.
C'est pas vraiment une critique.
C'est toujours le problème. Il apporte toujours plus offensivement que défensivement. Mais bon, on le dit souvent dans l'équilibre, tu peux pas tout avoir. On veut à la fois maintenant que le latéral soit bon défensivement et il doit apporter offensivement.
Alors,
quand t'as la chance qu'il t'apporte offensivement, équilibre ta défense pour que juste colmater.
Alors, quelque part, je pense que Thomas Meunier, il a le défaut de ses qualités. C'est-à-dire qu'il joue dans une équipe comme le Paris Saint-Germain où effectivement, c'est très offensif, ils ont beaucoup le ballon, donc ils se projettent naturellement vers l'avant. Il joue dans un système en Belgique où effectivement, il est déjà très très haut. Donc, s'il a quelques difficultés en termes de replacement tactique, c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est parce que parfois il est peut-être un peu naïf par rapport à ce qu'il a au PSG et il a peut-être pris des mauvaises habitudes et par rapport à ses coéquipiers, ouais, il n'a pas les mêmes
et
joueurs.
Et puis dans un système qui est différent de celui du Paris Saint-Germain où on le rappelle, au PSG il joue à 4 derrière, là c'est 3 centraux et lui est censé être encore plus haut avec l'équipe de Belgique. Donc
c'est
le champ défensif, on lui reproche des choses qui pour moi sont pas forcément de son fait, et plutôt comme le dit Ali, d'une défense à 3 derrière qui manque parfois un petit peu de
coulisser.
Ouais, de coulissage, mais de tactiquement, de sens tactique, voilà.
D'automatisme aussi. On rappelle que le troisième match de la charnière Alderweireld, Vertonghen et Boyata.
Mais là, encore une fois, on va dire individuellement, Gilbert le dit, oui, on a quand même individuellement des très bons défenseurs. Mais le problème de la Belgique, c'est qu'individuellement, on a parlé avec l'équipe de France, on est très bon. Mais arrive un moment, l'intelligence d'un joueur de haut niveau, c'est quoi? C'est de s'adapter à ses coéquipiers, leurs forces et leurs faiblesses, et de compenser. Voilà, on avait Monsieur Ducrot qui compensait énormément au milieu de terrain. Il valait mieux moi devant lui.
Mais
pourquoi? C'était pour l'équipe. Mais si tu le fais pas à la fin, chacun ne compense pas. Et c'est là que tu montres que c'est pas une grande équipe.
Que pour l'équipe, il valait mieux que je sois derrière Ali que devant lui.
Alex, qu'est-ce que t'en penses de la défense belge?
Moi, je pense que le problème, ça serait un peu plus. Enfin, je pense que c'est le système. Quand tu joues.
Tu jouerais pas à 3 derrière, toi?
Moi, je pense non. Moi, j'opterais plus pour un 4-4-2 ou un 4-3-3 classique.
C'est pas plus rassurant un 4-4-2, ça veut rien dire. Hein.
Donc, tu sortirais Boyata, quoi.
Dans les styles de joueurs, exactement, Boyata, il me rassure pas du tout. Et dans les styles de joueurs, les caractéristiques des joueurs, pardon, qui sont sur le terrain, je pense que c'est pas adapté de jouer en 3-4-3.
Après Dédric, il est mauvais sur, enfin il est pas mauvais, mais il est un petit peu faible sur la première relance. En tant que premier relanceur, c'est un peu compliqué. Et comme on lui donne quand même, il a quand même une grosse charge. Il est au centre d'une défense centrale à 3, dont on sait que les latéraux vont monter a fortiori très très haut. Donc il y aura forcément des espaces dans l'axe. On sait que Witzel, dont on en a parlé tout à l'heure, est presque sur la même ligne que De Bruyne. Donc forcément, il y a un trou dans l'axe. Il s'expose.
C'est pour ça qu'un joueur comme Moussa Dembélé aurait fait énormément de bien.
En fait, Martinez, c'est l'anti Deschamps, si tu regardes bien.
Voilà,
Deschamps, il te met 7-8 joueurs défensifs, parfois 8. Là, quand tu regardes,
t'en as 3. T'as 3 défenseurs centraux.
Un bon entraîneur, c'est quoi? C'est déjà faire son équipe par rapport aux ingrédients qu'il a. Pas essayer de faire son équipe par rapport à lui-même, mais non. Si j'ai que des Pierrot, Ducrot, je joue avec 4-6. Si j'ai beaucoup de milieux offensifs d'attaquants et de valeur, j'essaie de former une équipe très offensive qui va m'apporter tout en ayant un équilibre. Bien sûr que c'est pas évident. Mais si je décide, moi je joue comme ça, même si j'ai des joueurs de toute façon qui vont pas dans mon système, je m'en fous, il faut qu'ils me suivent. En général, tu te plains. Mais là, il a tellement de joueurs offensifs, autant qu'il en profite, mais peut-être que c'est vrai, cette petite touche d'Mbélé va lui permettre de colmater, d'avoir un joueur intelligent.
Alors, par rapport à ce que tu dis, effectivement, à l'heure actuelle, Roberto Martinez s'est exprimé devant la presse. Il a dit qu'il y aurait de très grands changements par rapport au match précédent. Donc, on ne verra pas la même équipe face à l'Angleterre.
Oui, le troisième match, tu veux dire.
Voilà, face à l'Angleterre. Ça, c'est une évidence. Après, par ailleurs, Romelu Lukaku s'est blessé. Il est touché au ligament externe de la cheville. Donc, on suivra, il lui fera des tests demain avec le kiné et sous les 48 heures, on aura un diagnostic fixe. c'est un petit peu l'inquiétude par rapport à ça, dans le staff, ça c'est une évidence. Et puis par la suite, je pense que ça fera du bien de voir d'autres éléments. Et donc Dembélé sera très certainement titulaire en lieu et place de Witzel, qui disait d'ailleurs dans la presse se sentir de mieux en mieux dans cette équipe. Bah forcément, il joue quand même depuis le début de la campagne qualificative à la Coupe du Monde, donc ce serait bien qu'il commence à sentir bien.
En plus, il y a un truc quand même, c'est que les Belges qui finissent premier ou deuxième, ils croisent avec le groupe qui quand même est peut-être le plus faible. C'est le groupe H là, avec Pologne, Sénégal, Colombie, Japon.
Dont on parlait de groupe de la mort à l'époque.
Hein, finalement, que tu sois premier ou deuxième, est-ce que ça a une vraie incidence pour les Belges? Là, ils jouent l'Angleterre en dernier match.
Non, parce qu'ils seraient favoris.
Quoi qu'il arrive, ils sont favoris en huitième contre le n'importe laquelle.
Les Anglais aussi. Les Anglais aussi.
Ouais, mais attention parce que...
Vous êtes bien, vous, hein.
Ça c'est que les huitièmes.
Ils ont pris un peu
on a fait champs, on a fait un bon travail par rapport à ça en amont. Je pense que on parlait de changer de système. Roberto Martinez, ça fait quand même depuis sa première défaite. Donc il y a eu une seule défaite, c'était son premier match face à l'Espagne. Et depuis il y a plus de défaites quoi. Et à partir de ce jour-là, il a dit je joue avec ce système-là, je vais l'adapter. Mes joueurs ils vont s'adapter à ce système-là et je vais pas le changer. Alors effectivement, à la mi-temps face au Panama, il est passé à 4. Là, il est passé à 4, je pense que nous étions à la 60e minute approximativement.
Peut-être donc, qu'il a deux systèmes pendant le match.
Voilà. Il essaye de se trouver des solutions en cas de problème face au, en se disant je vais rôder parce que si on a des soucis face aux grandes équipes, c'est justement bien, en termes d'équilibre, j'essaierai de combler les manques, quoi. C'est un peu comme ça que je le vois.
Ah, c'est plutôt pas mal fait. Et puis vous avez des certitudes quand vous commencez un match, vous savez comment vous allez jouer.
Ah, il y a que des certitudes. Voilà. À part Boyata, il y a que Boyata où
c'est pas tout le monde.
On sait que c'est le remplaçant de Vincent Kompany fondamentalement. Vincent Kompany qui n'est pas.
Il va jouer un jour Kompany là ou.
J'ai un peu l'impression qu'on l'a pris pour le prendre quoi. C'est vraiment ce que ça me donne comme impression.
Pour le groupe.
Hein ouais, pour le groupe. Ouais, pour le groupe. Bon, après. Voilà, je suis pas très convaincu de ce pour le groupe, en tout cas dit par Roberto Martinez.
Oui, c'est ce que je pense. L'importance, ouais.
Ouais, il s'entend très certainement avec tout le groupe. C'est peut-être un pote.
Peut-être qu'il tient un peu aussi le groupe, quoi. Mm-hmm.
Et dis-moi, on commence à s'enflammer un peu en Belgique, là, les supporters, tout ça.
Ah oui, c'est des dingues, là. Là, c'est fini. Là, j'écoutais un petit peu la radio belge en rentrant chez moi tout à l'heure en fin d'après-midi. Et ils sont déjà persuadés qu'on va être champion du monde.
T'écoutes pas RMC, toi ?
J'écoute RMC effectivement RMC tout le temps, mais par la suite, il faut que je travaille et que j'essaye de ramener des infos belges. C'est un peu pour ça que je suis payé.
Une oreillette RMC.
C'est sûr, exactement.
C'est beau ça.
Merci Alex, en tout cas.
Merci Alex.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ciao Alex. À très bientôt. Alors, un mot de la Tunisie maintenant. Les Tunisiens donc éliminés après deux matchs, deux défaites. Et Siras est avec nous, supporter tunisien. Salut Siras.
Salut tout le monde. Salut
Siras.
Salut Siras.
Salut Prince Ali. Sacha.
Hein salut.
Bon Siras, on parlait de problème de défense en Belgique. Il y a un léger problème de défense en Tunisie, je crois.
Bon, léger problème, c'est peu de dire. En fait, c'est un très très gros problème. Je voulais juste revenir sur les profils des joueurs en fait qui ont été sélectionnés, qui ont joué et qui ont représenté la Tunisie donc lors de ces deux matchs. En fait, on a beaucoup de joueurs formés en Tunisie et athlétiquement on n'est pas du tout au point. Si on peut juste faire un point sur la défense, en fait on a Manoul qui est à gauche qui va faire deux buts à la Belgique ce soir. On a un jeune Yassine Meria qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs du championnat tunisien. Il est juste catastrophique au niveau international. Je pense qu'il n'a jamais dû foutre les pieds dans une salle de sport. On a Siam Ben Youssef qui était quand même remplaçant à Caen la saison passée quand il était relégable. Et à droite, on a le petit Dylan Brown qui était encore amateur il y a des années de ça. Donc on peut pas se permettre d'aller au mondial. On ne peut pas se permettre d'aller au mondial pardon, avec une équipe pareille, sachant que on n'a pas mieux en fait. C'est juste le problème, c'est pas ces joueurs-là. Eux, ils sont là parce que c'est entre guillemets les meilleurs. On n'a pas mieux. En plus de ça.
Mais j'avais une question pour toi. Justement, je trouvais. Par exemple, que face à l'Angleterre, Naïm Sliti avait été très bon. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré aujourd'hui? J'étais très étonné de ne pas avoir sa titularisation, alors qu'il avait fait vraiment un bon match au milieu de terrain avec la Tunisie face à l'Angleterre.
En fait, c'est le Fener en fait, qui a voulu mettre 4 joueurs à vocation offensive avec un relayeur à la place d'un ailier, parce que Sliti avait joué ailier gauche contre l'Angleterre. Et là, il a été remplacé ce soir dans le 11 par Sifidi Mkhawi qui appartient toujours à l'OM et qui a plus joué dans le cœur du milieu de terrain avec Chassi notamment. Par contre, je voulais juste revenir sur un truc qui m'a, pour moi en fait, qui m'a complètement mis par terre. C'est la malchance qu'on a eue pour ce mondial, notamment avec. Déjà, on a eu la blessure de Mseguini. On a eu la blessure de Mseguini, qui est le joueur tunisien par excellence, le meilleur joueur avant le mondial. On a eu la blessure de notre numéro 9, le seul numéro 9 des métiers qu'on a, c'est-à-dire Kelechi, qui se blesse deux semaines avant le mondial. On a ensuite le gardien qui se blesse, Moaz Hacène, qui faisait un super match pour pas contre les Anglais. On a Dylan Brown qui se fait les croisés. C'est tous des blessures de soit c'est les croisés, soit c'est l'épaule, c'est tous des blessures de 3-4 points minimum.
Deux blessures en 45 minutes quand même.
Juste avant la Coupe du Monde, on l'a souvent juste avant la Coupe du Monde. Mais par contre, moi, ce que je suis étonné, Syrah, c'est que j'ai vu des très bonnes équipes nationales de Tunisie, là où ils étaient costauds défensivement, très unis, très collectifs, ne pas se qualifier pour les Coupes du Monde, alors qu'on s'y attendait. Et cette année, on n'en parle pas du tout de cette équipe. Je la trouve, pour pas dire faible, mais unis, mais pas comme les autres équipes où c'était très lourd, très costaud. On sentait vraiment un relais pratiquement à chaque poste, aussi bien en défense, au milieu, en attaque. Mais là, je trouve qu'elle peut facilement s'effriter dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui n'était pas le cas avant des autres équipes tunisiennes, en fait, qui ne sont pas qualifiées par contre pour la Coupe du Monde.
Le profil de la Tunisie en ce moment, il n'est pas défini en fait. C'est-à-dire qu'on on a la recherche d'une identité de jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'on hésite encore entre le jeu de possession, le jeu de contre ou le jeu bloc bas défensif. Donc on ne sait pas encore comment. On sort le ballon, on sort très proprement. Il y a des phases de jeu de construction qui sont très intéressantes. Mais sur les 90 minutes, on alterne plusieurs phases de jeu, un bloc bas. On cherche encore en fait une équipe très jeune aussi pour le savoir.
Mais bon, mais tu as joué Syrah contre l'Angleterre et la Belgique. Il y a d'autres équipes africaines qui n'ont pas joué contre deux grosses équipes comme l'Angleterre et la Belgique.
C'est une équipe de mecs de Ligue 1 et de Ligue 2 quoi.
Oui, enfin, exactement.
Même pas Ligue 1.
Voilà, donc faut pas être étonné en fait.
C'est ça.
Non, mais c'est pour ça que je suis pas étonné du tout.
Non, mais avant t'avais beaucoup de joueurs du championnat tunisien, des très bons joueurs en Afrique, qui faisaient la Champions League, qui est moins le cas.
Allez, regarde. Et c'est un pronostic que je donne, c'est que le champion du monde sera européen, sachant que le foot sud-américain...
déjà, le Brésil et l'Argentine, on ne sait même pas s'ils vont passer ou pas.
Voilà.
Le Brésil, ça,
l'Argentine est capable de battre
aussi, et la Colombie aussi. Quand on voit les performances des Sud-Am, on se rend compte que ce n'est pas terrible. Et quand on voit aussi les performances des pays africains, quand on voit qu'on arrive à rivaliser avec les gros du continent sur la Tunisie, qui arrive à rivaliser avec le Cameroun, etc., ou la Côte d'Ivoire, etc., et qui arrive en Coupe du Monde et qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, c'est que vraiment, il y a un nivellement vers le bas du foot africain et que tout simplement, il faudrait justement que tous les joueurs aillent en Europe. C'est un, ou alors amener des Européens en Afrique. Des Européens confirmés, on ne veut pas du jeunesse, on a respect pour ces gens-là, hein. Ou du Leroy, ou du. Arrêtez.
Il y a pas mal de supporters de foot africain qui se félicitaient d'avoir enfin des sélectionneurs locaux. Donc
exactement. C'est les championnats qui ont baissé aussi bien. Je veux dire, en Tunisie où il y avait un gros championnat, en Algérie le championnat est devenu très très faible, et même au Maroc où ils avaient un gros championnat, parce que là ils se retrouvent. Le championnat, oui, ça s'est affaibli un petit peu de partout. On parlait de la Belgique avant et de l'Hollande, où c'était des deux gros championnats avec des équipes qui se retrouvaient souvent en demi-finale, en quart de finale Champions League, qui ont complètement disparu. Et là, on a le même problème.
Merci, Syrah. Dans les championnats africains. Je précise juste que ce soir, avant le match demain entre l'Angleterre et le Panama, ce soir, mathématiquement, les Tunisiens sont pas éliminés. Hein. Mais il faudrait que les Panaméens gagnent demain contre les Anglais. Donc c'est quand même pas gagné.
C'est compromis.
Ça semble quand même compromis.
Si dit, ils ont été plutôt valeureux. Ils ont mis deux buts. On a parlé des failles défensives.
Quasiment, quoi.
On a parlé des failles défensives de la Belgique. Ok, mais ils ont quand même mis deux buts. Ils ont mis un but à l'Angleterre. Ils ont été vaillants.
Ils ont pas beaucoup d'armes surtout. Ben, leur seule arme qui était très importante et forte, c'était Mseguini, qui est au Qatar, à Duhail Sport. Et il était prêt, parce qu'il a des grosses qualités physiques et techniques. Et on le sait maintenant qu'un joueur est très bon dans ton équipe, ça aide énormément les autres coéquipiers. Et le fait qu'il se soit blessé, mais complètement blessé le pauvre, juste à la Coupe du Monde, ça a donné un gros coup à la Tunisie.
Passons au Mexique, messieurs. Le Mexique qui confirme, qui gagne 6 points pour le Mexique.
Et mon ami Juan Carlos Osorio.
C'est ton ami Juan Carlos Osorio.
Oui, qui était avec moi à Manchester City.
Il y a des amis partout.
Qui était préparateur physique. Mais alors,
il est pote avec comment il s'appelle le Panaméen là?
Non,
Beres, Costa Rica.
Paolo Wanchope.
Paolo Wanchope du Costa Rica.
Costa Rica, wow, classe.
Non, mais t'as pas joué avec Dely Valdés toi au PSG?
Non.
Moi oui.
Ouais.
Ah, les connexions qu'il y a dans l'after.
Quel honneur de parler avec toi,
et,
Ali.
Et c'était un entraîneur mais méticuleux à un point.
Tu parles de qui là?
Juan Carlos Osorio. Fou furieux, hein, je veux dire. De toutes les méthodes. Il était là du matin au soir, tous les jours. Pointilleux. Il avait même, je crois, il l'avait dit, hein, il avait loué une chambre, je crois, je sais pas si c'était du côté de Manchester ou de Liverpool, pour pouvoir regarder
à
travers les entraînements et il notait tout. Mais il s'occupait de, il pouvait s'occuper de des joueurs de A à Z. Alors que
ça, Sampaoli le faisait aussi. Hein. Il montait dans les arbres pour mater les entraînements des
toujours
joueurs.
Toujours en train de tout noter, en train de tout entraîner.
Ouais, là ces derniers temps,
il pouvait faire de la préparation physique, la préparation technique, la préparation tactique, tous les points, et même prendre quelqu'un individuellement.
Tiens, justement, on va parler du Mexique avec Diego Calmar, qui est journaliste et d'origine mexicaine et qui connaît bien ça, bien sûr, cette sélection mexicaine. Salut, Diego.
Bonsoir.
Hola Diego.
Bonsoir. Salut Diego. Bon Diego, est-ce que t'es étonné par les 6 points déjà dans la poche des Mexicains?
Je précise, je journaliste à sur le site Lucarne Posée.
Ah oui, excellent.
Oh, oui,
je l'ai cité hier soir en after.
Avec Nico.
Oui, ah, oui. Par erreur, je me souviens, mais oui, mais journaliste à Lucarne Posée et je suis le Mexique pour le site.
Ah. Très bien.
Voilà.
Donc 6 points, t'es étonné ou pas finalement vu que tu suis de près cette équipe?
C'est un peu compliqué. Étonné, oui, parce que la victoire contre l'Allemagne. Après, ce soir, on s'attendait plus ou moins à une bonne rencontre face à la Corée. Et finalement, le sentiment il est un peu mitigé parce que il y a eu une bonne prestation des joueurs. Dans l'ensemble, ils ont dominé. Dans l'ensemble, ils ont été plutôt bons. Mais finalement, le Mexique est toujours pas encore qualifié malgré les 6 points acquis face à la Corée et l'Allemagne. Parce que s'il y a un concours de circonstances, là, il y a 3 équipes qui peuvent encore finir avec 6 points, il me semble.
Oui, enfin, faudrait quand même un méga concours de circonstances, si je peux me permettre, parce que...
Si le Mexique perd contre la Suède...
Et que dans le même temps, l'Allemagne bat
la Corée du Sud...
Ça fait trois équipes à six points.
Tu vois vraiment le Mexique perdre face à la Suède?
Ouais, sur la dynamique et tout...
Bah, quand on voit l'Allemagne, comme l'Allemagne a lutté ce soir pour gagner, on peut imaginer que la Suède fait un genre de match et a de la réussite.
On va dire goal average et goal average particulier.
Alors c'est goal average général en premier.
Donc général en premier, c'est ça qui peut faire la différence.
Ça peut même se jouer au fair play. Ça peut même se jouer au fair play.
Et au carton aussi, non?
Non, c'est la Suède.
Écoutez Diego, vas-y Diego.
Oui, j'essaie de parler. La Suède, si elle gagne 1-0 contre le Mexique, après ça peut se jouer au fair play entre les deux équipes. Après, footballistiquement, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur ces deux matchs, on voit quand même que le Mexique a beaucoup plus de certitude, je dirais, dans le jeu que la Suède. Mais le Mexique est totalement capable de se saborder sur le troisième match face à une équipe qui est bien plus physique, bien plus solide dans les centres, etc.
Alors moi j'ai une question.
Qui est complètement faisable.
Je trouve que le comportement et le niveau d'Hector Herrera, c'est absolument fabuleux. Dans son rôle de milieu de terrain, relayeur, de perforation, il gagne des duels parfois.
Il a toujours fait ça.
Mais en plein
axe
du jeu.
On n'en parle pas Herrera, mais il a toujours fait ça.
C'est un joueur fabuleux.
C'est un joueur de Porto depuis longtemps qui est énorme et qui fait un super boulot.
C'est dommage que Nico Villas soit pas là parce qu'il pourrait en témoigner, mais Hector Herrera, c'est le capitaine de Porto.
Ça c'est bon.
Trop souvent.
Ouais.
Un petit peu trop.
Non, mais il pourrait en témoigner. C'est le capitaine de Porto. C'est l'un des meilleurs joueurs de la sélection depuis des années. Il était là au JO en 2012. C'est lui qui décide de ce qui se passe sur le terrain et face à l'Allemagne. Enfin, on parle de lui aujourd'hui, mais moi, pour moi, face à l'Allemagne, c'était vraiment lui le maître à jouer de l'équipe.
Bien sûr.
Et le meilleur joueur sur le terrain, mais largement, c'est lui qui décide de ce qui se passe.
Mais cette équipe du Mexique, quand tu la vois changer autant de rythme et se projeter à 4-5 joueurs à une vitesse,
qu'est-ce que c'est agréable.
J'ai vu très peu d'équipes faire ça.
Moi, je
suis
fan.
C'est pour ça que même si les Suédois sont costauds, on dit dans les duels et tout. C'est quand même lourdeau, il n'y a pas autant de connexions à 3-4 joueurs qui se projettent vers l'avant comme le font les Mexicains. Je vois mal les Mexicains perdre contre les Suédois.
Ouais, mais sur un match comme ça, entre des matchs de poule, tu sais pas ce qui peut se passer. Mais on a bien vu qu'il y a beaucoup d'équipes qui faisaient le jeu qui n'étaient pas capables de gagner ces matchs. Et le Mexique est capable de dominer. Il va dominer ce match-là, je peux déjà le dire.
Diego, il y a à faire le jeu. Faire le jeu et être tranchant comme les Mexicains, c'est pas pareil. On a vu même l'Allemagne faire le jeu possession, mais pas autant tranchant devant le but que savent le faire les Mexicains.
Mais tu avais raison, Ali, de parler de transition, parce que je pense que le Mexique, c'est une des seules équipes qui, pour le moment, a montré qu'il était capable d'à la fois de subir et de pouvoir se projeter rapidement en contre, comme ce qu'elle a fait face à l'Allemagne, et aussi à la fois de pouvoir gérer le jeu, de le prendre à son compte et de dominer une rencontre.
Il a si bien marqué aujourd'hui.
Diego, s'il y avait un joueur que tu voulais ressortir là, bon, on a parlé d'Herrera, est-ce qu'il y en a un autre qui t'impressionne particulièrement?
Lozano, c'est ce que j'allais dire, qui a été
mal. Ah, là, Lozano, c'est pas le meilleur sur ce match-là, hein. Je dirais
qu'il a pas été mal sur les deux matchs.
Ouais, je dirais que sur ce match-là, il a quand même pas mal gâché. Je dirais que c'est quand même Carlos Vela ce soir. C'est lui qui. Déjà sur le premier match il est énorme, il déstabilise énormément les milieux défensifs de l'Allemagne. Là il fait exactement pareil avec contre la Corée. Moi je mettrais Vela, mais après c'est surtout je pense le collectif. On voit très bien que dans cette équipe il n'y a pas un mec qui est là pour sauver les autres, quoi. Ils sont tous assez énormes. Derrière on l'a pas dit, mais Carlos Salcedo
et Ochoa dans les buts. Moi
j'allais dire et Ochoa dans les buts, évidemment.
Qu'est-ce que l'expérience. Tu penses de l'impact de Marquez au sein de l'équipe de, parce que j'ai l'impression que son expérience fait vraiment du bien au collectif.
Si c'était purement sportif, Marquez il serait probablement pas dans le groupe. Marquez il joue moyennement, on va dire, avec son équipe de l'Atlas Guadalajara au Mexique. Il n'est pas brillant. Je pense qu'il est surtout là pour la cohésion de groupe, ce qu'il représente au Mexique et au sein de la sélection. C'est un peu le grand frère de tous ces joueurs là. C'est son cinquième mondial et c'est la cinquième fois qu'il joue en tant que capitaine, parce que quand il rentre, à chaque fois il remplace Guardado, c'est donc bon, à chaque fois il prend le brassard. C'est surtout le personnage plus que le joueur, quoi.
D'accord.
Bon, finalement, si je devais mettre quelqu'un vraiment en avant dans cette sélection, et Ali en a parlé, c'est surtout Osorio. Parce qu'Osorio, le coach, c'est un mec qui a été énormément critiqué au Mexique.
Alors, pour ses changements de main.
Voilà, c'est ça, il fait beaucoup c'est de rotations en fait. Il change énormément ses équipes en fonction des matchs, il étudie énormément les adversaires. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est une des premières fois que le Mexique, enfin ça faisait longtemps que le Mexique n'avait pas eu un étranger à sa tête, parce que Osorio est colombien.
Oui.
Donc c'est pour ça aussi qu'il est très facilement critiqué. Mais surtout le match face à l'Allemagne, il a mis tout le monde d'accord parce que ça a été considéré comme une véritable victoire tactique, ce qu'il a pu faire notamment sur le côté gauche du Mexique. Moi, si je devais mettre quelqu'un en avant, et je pense que beaucoup de langues sont en train de se délier là, parce que beaucoup de spécialistes sont en train de faire un peu leur mea culpa là, parce que il était énormément critiqué avant le mondial.
Le Mexique, c'est aussi plein d'histoires. Alors, l'histoire de Marquez, on la connaît par cœur. Corona, le joueur qui est rentré aujourd'hui, là. Alors lui, quand il jouait en championnat, on l'appelait pas Corona parce que le championnat est sponsorisé par une marque de bière qui n'est pas la Corona. Donc c'est un peu gênant que Corona, si tu veux qu'on le cite.
Mais qui est son concurrent direct, tu vois.
Après, il y en a
même des Corona. En même temps, Corona au Mexique, c'est vrai que
c'est un il s'appelle Jesús Corona. Il y a un autre Jesús Corona dans la sélection, c'est le gardien remplaçant.
Ouais, et du coup oui, je crois que c'était Rosé, bon c'est pas grave. Enfin bref, les Corona sont présents. Et puis c'est le prédécesseur d'Osorio qui s'était fait virer parce qu'il avait une baffe à un journaliste.
Oui, c'est ça, c'était donc l'entraîneur durant le mondial 2014, il s'appelait Miguel Herrera. C'était pas un mauvais coach hein, mais disons qu'il était assez mal poli, assez vulgaire et assez violent quoi. Il avait foutu une baffe à un journaliste à l'aéroport. Retour d'un match de Gold Cup. Donc voilà.
On appelle ça un plein vol presque.
C'est incroyable ça. Le mec il rentre à l'aéroport, il est pas content, pam, dans ta tronche. Allez, virer.
Je suis en train de regarder, Corona, le troisième gardien. L'âge des gardiens du Mexique, 32, 35 ans et 37 ans.
Ouais,
mais il va falloir en revenir pour la prochaine Coupe du Monde, je pense quand même.
C'est l'une des équipes les plus expérimentées hein, de ce mondial. Quand tu regardes, il y a 15 joueurs de l'effectif qui faisaient partie déjà de l'effectif du mondial 2014. 15 joueurs. Mmh. C'est-à-dire que la plupart vivent ensemble depuis très longtemps et je dirais même que certains vivent ensemble depuis presque 15 ans. Depuis presque 15 ans parce que les sélections de jeunes, etc.
Ah ben, presque la même chose avec nous en Belgique où oui, des 11 étaient titulaires également durant la Coupe du Monde 2004.
Ça sert énormément cette cohésion.
Heureusement que Lionel Charbonnier ne s'appelait pas Lionel Cronenbourg. C'est nul comme blague.
Il n'aurait pas pu jouer à Strasbourg.
On parle correctement du Mexique et on est en train de les encenser là, mais faut pas oublier que la qualification n'est vraiment pas terminée et le Mexique est vraiment capable de se saborder tout seul C'est typique du Mexique.
Ce serait quand même très con, Diego.
Parce qu'elle était supplémentaire des Mexicains.
Mais oui, Diego, on va pas leur porter l'œil, là.
Ouais, mais je sais, mais je les connais, je sais de quoi ils sont capables, et c'est surtout de ceux de quoi ils sont pas capables. Donc, ça peut être, faudra assurer la victoire, parce que c'est pas en jouant le match nul contre la Suède que tu peux espérer quelque chose.
Merci, Diego. Donc,
passe le bonjour à Nicolas.
Le site Lucarno.
Ouais, j'avais un message à passer, justement, vu que tu parles de Nicolas. Donc, vous savez, je suis journaliste à Lucarno Posé. Je sais que les Français sont attachés à leur quotidien, à leur site habituel et tout, mais si vous voulez vraiment des analyses, des vraies analyses sur des super sélections, les sélections les moins connues, n'hésitez pas à aller sur ces sites indépendants. Voilà, on vit de peu de choses, mais en tout cas, on est on bosse comme des malades.
Ouais, je confirme pour le coup, le site du Lucarno Posé est très bien fait.
Ouais.
Enfin,
ouais.
Il y a de très bonnes infos.
J'y étais moi-même hier, en début de soirée.
Il y a plein de sites comme ça où voilà, on parle vraiment de nos sélections et on a vraiment un œil voilà très très spécialiste dessus, parce que finalement on les suit tous les jours et n'hésitez pas à nous aider parce que on vit de briques et de brocs, on est indépendant et ça nous ferait vivre un peu, voilà.
Très bien, le message est passé.
Merci
Diego. Lucarno Posé, bon, il y a l'after d'abord, hein, mais Lucarno Posé ensuite.
Salut ouais. Diego. Ah, il perd pas le nom.
Bah non, mais quoi, faut quand même défendre sa boutique. Non, non.
On va faire comme les Belges, allez.
Dans quelques instants, nous sommes de retour avec le reste de l'actu du mondial, le mercato, mais il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, hein. C'était le week-end et tout, les agents sont en repos.
Bon, ça, c'est pas vrai.
Et ensuite, le quiz et le journal moyen. À tout de suite dans l'after.
RMC After Russie 2018, Gilbert Bribois.
Allez, Bénervia est là, Pierre Ducrot est là, Sacha Tavolieri également, c'est l'After. On va parler un peu de l'équipe de France avant de passer en revue l'actu du mondial, parce que l'info du jour en équipe de France, les gars, c'est que Kimpembe pourrait être titulaire contre le Danemark.
Normal.
Puisqu'en fait, Umtiti a une béquille, donc en plus il a quelques problèmes au genou. Donc Umtiti pourrait être un peu mis au frigo. Et Kimpembe, du coup, pourrait être titulaire en sachant que Deschamps.
J'aime pas cette expression au frigo, putain.
Ouais, là, mais façon de parler. Enfin, tu
mais
vois,
au réfrigérateur.
Ah non.
Au frais.
Non, à l'infirmerie, au repos, sais pas, mais pas au frigo, putain.
Mais au congèle, c'est mieux.
C'est morbide le frigo, quoi, non?
Congèle.
Oui, enfin bon, en même temps, c'est pas
en même temps, c'est une expression.
Au frigo, c'est. Ceci dit, il aurait pas été blessé. Moi, je faisais jouer Kimpembe quand même. Et je mettais Umtiti au repos. Même si Umtiti n'était pas blessé.
Est-ce que tu vas avoir Kimpembe et Rami?
Non, je pense pas.
Non.
Je pense pas. Je pense que tu vas avoir deux nouveaux latéraux, Kimpembe.
Kimpembe Varane.
Et le boss de la défense, Varane.
Ah. Ouais.
Mais qui pourrait gagner des points, du coup.
Alors 3 sur 4 de changer en défense, c'est bon.
Celui que j'ai peur, moi, beaucoup plus, pour ses genoux, c'est plus Varane, moi, que Umtiti, que les autres défenseurs. Ouais, parce que lui, à chaque fois, il peut nous lâcher. Bon. Quand ça va être important, c'est le 8e qui va être important. À savoir que t'es premier ou deuxième.
Bah, c'est pour ça que je suis très content de voir Kimpembe, là.
Oui.
Je suis très content de le voir aligné.
Moi j'adore. Oui,
on le disait déjà hier soir, 8e de finale qui arrive 4 jours après le.
C'est pour ça.
Oui, donc ça va assez vite, mine de rien. Ça incite Deschamps à faire tourner. Il avait fait tourner 5 joueurs en 2014, il avait fait tourner 6 joueurs pour le dernier match.
Ouais.
Est-ce qu'on va pas avoir beaucoup de joueurs, parce qu'on se posait beaucoup de questions au milieu de terrain et en attaque? Est-ce que c'est le moment des fameuses questions pour laisser reposer des joueurs?
Ouais, moi je pense que tu vas en avoir 5 ou 6 effectivement, comme en 2014.
Vous feriez tourner, vous?
Ah oui.
À moi?
Ouais. Oui.
Premier, deuxième, je m'en fous. Ça me changerait. Mais par contre, avoir mes joueurs frais.
Ça peut changer. Parce que
moi, c'est même pas pour ça que
si je
peux
éviter. Moi, je vais éviter.
Tu vas tomber quoi?
Bah quoi?
La Croatie.
Croatie ou l'Argentine?
Bah, vaut mieux éviter la Croatie. Vaut mieux éviter la Croatie.
Vaut mieux terminer premier. Mais là, on est plus placé.
Les Croates, je les éviterai.
Par rapport aux Danois. Non, mais par rapport aux Danois, un match nul, c'est entièrement suffisant, nous. Donc, on n'a pas besoin non plus de mettre une.
Mais moi, tu vois, je ne ferai pas tourner même. Enfin, c'est pas pour cette raison-là que je ferai tourner.
Pour la continuité?
Pas que. C'est aussi pour une sorte de concurrence à certains postes. Alors, Kimpembe, moi, honnêtement, je suis très content de le voir aligné.
Et au milieu?
Au milieu, non, pas forcément, parce que je garderai le système du 4-2-3-1 et je mettrai. Alors, soit tu laisses Kanté Pogba, sauf que Pogba, il faut que tu le sortes, je pense, parce qu'il a un carton et qu'il faut pas qu'il le reprenne.
Non, il faut qu'il souffle aussi un petit peu, moi.
Et encore que je suis même pas sûr qu'il ait besoin de souffler, moi, Pogba. Je suis pas sûr.
Faut pas le faire souffler.
Mais c'est surtout sur les côtés devant.
Tiens, tu parles de concurrence. On va écouter Djibril Sidibé. Il est venu à la conférence de presse du jour et il parle justement de concurrence, sa concurrence à lui avec Pavard.
C'est sûr que quelque part il y a un peu de frustration, sachant que j'ai joué la plupart des matchs avant le mondial et se retrouver dans cette situation-là, il y a un peu de frustration, mais voilà, comme je le répète, c'est un rêve pour moi de disputer ce mondial. Beaucoup de joueurs rêveraient d'être à ma place aujourd'hui, donc C'est-à-dire, en quelque sorte, on va se rabaisser pour le collectif, travailler, et puis attendre l'occasion pour démontrer au coach que, voilà, on est plus que présent pour regagner ma place, quoi.
Bon, Pavard qui a pas été exceptionnel contre le Pérou, alors est-ce qu'il peut gagner sa place?
Mais je préfère Sidy B, moi. Moi, je le dis depuis longtemps. C'est un joueur que j'adore. Moi, j'adore Sidy B.
J'adore Sidy B, sauf que pour moi, je suis pas sûr qu'il soit physiquement prêt. Il était pas prêt à enchaîner des matchs,
tu veux dire.
Voilà, il était pas prêt déjà à enchaîner des matchs. Ouais. Et est-ce qu'il peut tenir, même là, un match où il reviendrait plus un huitième de finale 4 jours après? Je suis pas persuadé.
Non, peut-être pas.
Mais je comprends pas, tu l'as pas trouvé bon, Pavard?
Contre le Pérou. Je l'ai trouvé bien.
Moi, je l'ai trouvé bon.
Je le trouve.
Il a raté quelques trucs un peu faciles, des contrôles.
Propre. Bon, non. Propre. Hernandez, je trouve bon défensivement. Pas propre. Mais il m'apporte pas autant que ça offensivement, ni Pavard. Alors on me dit, oui, mais tu as Mendy et Sidy B qui t'apportent offensivement, oui. Et qui sont un peu plus faibles. Mais tu as d'un côté et de l'autre des faiblesses et des avantages.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est parti avec deux latéraux qui étaient nos numéros 1 à la base, qui sont pas capables.
Et du jour au lendemain.
En tout cas, pour l'instant, on n'a pas la certitude qu'ils puissent même tenir un match, quoi. Mendy a pas joué 90 minutes encore entier.
C'est pour ça que Mendy, je me pose pas la question. Sidy B, c'est différent.
Donc là, le troisième match, finalement, t'en viens te dire qu'il faut faire jouer ses latéraux pour qu'ils prennent du temps de jeu absolument, quoi.
Mais si t'en as besoin. Sinon, si t'es blessé ou carton jaune, carton rouge, et que t'es obligé de faire jouer Mendy au moment où important.
En huitième ou en quart.
Je te souhaite bonne chance.
On va prendre l'avis d'Antoine au 32-16. Antoine, bonsoir.
Ça va, les gars?
Ça va et toi?
Bonsoir, Antoine.
Salut.
Très bien. Salut, Sacha.
Toi, je sens que tu veux faire tourner, toi.
Je reste dans la logique des champs, 5-6 changements sur les deux dernières compètes. Donc faut pas oublier que Sidy B et Mendy, c'était quand même il y a encore un mois, deux mois,
titulaires
latéraux. Donc je pense que si on les met mardi, on va pas non plus perdre en valeur. Pavard, moi je le compare un peu au François Clerc, vous voyez, de l'époque équipe de France. Jamais bon, jamais mauvais, vous voyez, moyen bon.
Il fait
pas transcendant. Après, le gardien, je le mets à part, s'il met Mandanda, Lloris, ça compte pas trop. Lapsuski, Mb qui remplace Umtiti, sachant que lui il a quand même eu des problèmes de genoux récurrents ces dernières semaines, c'est pas plus mal aussi. Au milieu, Pierre, tu disais que Pogba un carton jaune, mais Matuidi, Tolisso en ont un également. Donc est-ce que ça va rentrer dans la réflexion? Sans doute, mais un Matuidi n'a pas joué 180 minutes, donc je pense que lui il va jouer, il a besoin d'avoir des tauliers. Après, est-ce qu'on va lui mettre un Tolisso, un Nzonzi à côté de lui dans un 4-2-3? C'est pas impossible. J'aimerais bien voir Lemar, comme ça permettrait également à Mendy d'avoir des repères pour son retour. On le met côté gauche. Griezmann, donc là, après on va rentrer dans des débats sur Antoine Griezmann, donc on va avoir le débat, est-ce qu'il faut qu'il enchaîne, est-ce qu'il faut qu'il se repose, est-ce que son problème à lui c'est physiquement, est-ce que c'est mentalement? La décision, là, elle nous a un petit peu tous emmerdés, là, son reportage. Est-ce que lui, ça lui trotte pas aussi? Parce que les deux
fois, rigole pas, fait, ça lui a peut-être pompé un peu de jeu,
Je rigole pas, moi ça me fait chier, hein. Mbappé, pour moi il peut enchaîner, est-ce qu'on relance Dembélé? Fekir, est-ce qu'il peut pas nous amener encore autre chose? Pour moi, tous ces joueurs-là, mais ça doit passer contre le Danemark pour au moins faire un match nul, comme disait Ali.
Je suis entièrement d'accord avec
Antoine. Faut pas être inquiet. Et après, on aura le temps de parler du huitième de finale, que ce soit l'Islande, le Nigeria ou l'Argentine. Au pire, on aura un gros match contre l'Argentine, ce sera génial aussi.
Moi, je suis entièrement d'accord avec Antoine. Hier, on s'était amusé sur BFM Sport à faire nos compos. Mis à part Giroud, qui a un profil différent et qui je pense faut le faire enchaîner là. Les trois derrière Giroud, je mets Fekir derrière Giroud et je mets Dembélé et Lemar effectivement. Et pas juste pour les mettre. Je leur dis que j'attends beaucoup d'eux et que il y a quelque chose à jouer, quoi.
Merci Antoine. Alors pour finir sur l'équipe de France aujourd'hui, le grand truc c'est il paraît que les mecs s'ennuient. Alors moi c'est un truc
Non, mais non. Ouf, alors Gilbert, on a eu le débat.
Comment tu peux t'ennuyer, quoi.
Non, on a eu le débat encore ce matin. Il y a aucun joueur qui s'est plaint. Voilà, à ce qui paraît, en off, il y aurait eu une discussion en off avec un joueur qui aurait dit, effectivement, les journées sont longues. Ali, on a connu les mises au vert. Qui va dire aujourd'hui que quand tu passes... Là, aujourd'hui, ça fait un mois qu'ils sont ensemble, les mecs. Qui va dire aujourd'hui, de façon honnête, qu'ils s'éclatent quand tu passes toutes les journées de façon identique à Istra où il y a rien à faire. T'as même pas, tu peux même pas ouvrir ta fenêtre pour avoir une belle vue. Il y a même pas ça. T'es
attends,
dans les
pins. Il y a des belles forêts. Bah,
voilà.
Des balades,
honnêtement, les journées, on les connaît. Ils les connaissent par cœur.
Qui va te dire
aujourd'hui les mecs qui doivent s'éclater dans leur chambre de 12 mètres carrés là ou plus, on s'en fout. Même si elle fait 30 mètres carrés, on s'en fout.
Ils ont les DVD, leurs jeux vidéo, leurs machins.
Mais Gilbert, si on met toi un mois et demi dans une chambre avec des DVD et une PlayStation, tu t'éclates.
Ça dure certaines.
J'en rêve. Moi, de mémoire, un mois dans la forêt russe avec des.
En plus, c'est pas ça, Pierrot. Faut faire la différence entre.
Tu iras caresser les ours.
Ben ouais, faut faire la différence entre le club où t'as vraiment un peu comme des potes, c'est toute l'année, et l'équipe nationale où c'est quand même différent.
Bien sûr, en plus.
Et
en plus.
Rester autant de temps, pas se retrouver à la maison et par mise au vert de deux jours. Là, non, c'est tout le temps avec quelqu'un où tu n'es pas toute l'année ensemble.
Et ça n'empêche pas les mecs de kiffer d'être là pour faire la Coupe du Monde.
Mais ils sont là pour
deux, trois infos. Bien sûr.
Deux, trois infos ce soir. On apprend qu'il y a une procédure disciplinaire ouverte contre Chaka et Shaqiri suite à leur célébration de but hier. Vous savez qu'alors qu'ils ont fait l'oiseau
du Kosovo,
symbole de l'Albanie, l'aigle albanais. Donc en fait, c'est le symbole de la grande Albanie. Voilà. Donc en gros, contre la Serbie. Bref, ouais. Donc les Serbes sont foudrage, provocation. La presse serbe aujourd'hui s'est déchaînée contre eux. La FIFA interdit les messages politiques dans les stades, donc on assimile ça à un message politique, donc il pourrait y avoir des sanctions. Alors, quelles sanctions? Est-ce qu'il pourrait être suspendu pour le prochain match de la Suisse? On verra. Est-ce
qu'il fera la sanction après la Coupe du Monde?
Sanctions financières ou pas?
C'est pas très malin, ouais, effectivement.
Pas très malin. Bon, et prémédité par ailleurs, puisque bon.
T'as dit qu'ils ont fait l'aigle?
Oui, c'est.
Alors comment ils peuvent faire l'aigle?
Là, c'est pas évident, faut savoir le faire.
En fait, c'est. Je sais pas si t'as déjà vu. C'est ce que faisait Anneka quand il célèbre un but, fait ça. En fait, c'est ça.
Ça peut être un peu de tout. Ça peut être une colombe, ça peut être
mais si c'est
un moineau, je sais pas, mais une colombe.
Sinon, Farfan, le Péruvien, transporté à l'hôpital aujourd'hui après un coup à l'entraînement. On n'a pas plus de nouvelles pour le moment. Ce sont les Péruviens qui le font savoir. Donc voilà pour l'actu Coupe du Monde. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire?
Neymar
a totalement récupéré, dit aujourd'hui le médecin de la sélection brésilienne.
Ça va vite.
Voilà, qui est celui qui l'a soigné, hein, le fameux Lasmar.
De ses blessures physiques ou de ses blessures psychologiques, mentales et de cœur?
Non, il
parce que c'est plutôt
pied,
ça le problème, je pense, c'est Neymar.
Enfin, tu parles de ses pleurs, etc.
Moi, je pense que Neymar, il a un vrai problème affectif.
Je pense qu'il a juste laissé sortir.
C'est que ce qui s'est passé la dernière Coupe du Monde avec sa blessure où il n'a pas pu terminer, là, il s'attendait vraiment à être prêt. Il a préparé cette Coupe du Monde toute la saison tranquillement au PSG. Et patatras, qu'il lui arrive ce problème.
Il a failli la louper.
Donc, on le sait, rééducation, quand tu dois revenir, c'est usant, c'est fatigant, quand la Coupe du Monde et que le temps passe très vite. Et là, de se retrouver avec une petite douleur, toujours.
Ouais, il a eu peur. Ouais,
je l'ai quand même trouvé anormalement nerveux. Hein. Franchement, insulter l'arbitre, enfin parler mal à l'arbitre.
Mais c'est habituel chez lui, même quand il n'est pas blessé.
Moi, je trouve ça désagréable.
Moi, je trouve qu'on est dur avec lui, parce qu'on oublie. Alors, il en rajoute parfois, il cherche les coups parfois.
Il prend toujours des coups aussi.
Mais il en prend beaucoup quand même, quoi. Et parfois, enfin, tu joues aussi un peu au foot, Sacha. Quand tu prends 10-12 coups par match, à un moment donné, je trouve pas ça normal. Et moi, j'en mettais des coups. Je trouve pas ça normal que le mec en face, il s'énerve un peu, tu vois, et qu'il devienne un peu nerveux. Peut-être qu'il devrait pas, mais
c'est
difficile de parler.
Tiers des fautes face au Panama, c'était juste sur Eden. Donc c'était un truc de fou. Il n'a pas moufté une seule fois.
Bravo à lui.
Il y a aussi, non, il y a
bravo
aussi
à lui, c'est parce que c'est bien, mais c'est pas toujours facile.
Encore deux petites histoires. Vous dire que Messi était à l'entraînement avec Sampaoli aujourd'hui. Il y avait des rumeurs comme quoi la sélection argentine, enfin la Fédé voulait virer Sampaoli. Il était bien à l'entraînement.
Tout va bien pour l'Argentine.
Joueur entraîneur.
Et puis une histoire colombienne pour finir. Menace de mort contre Carlos Sanchez, l'ancien joueur de Valenciennes, le Colombien qui a pris un rouge exclu face au Japon. Et alors il y a un lien qui est fait sur les réseaux sociaux dans les menaces entre ce qui est arrivé à Andrés Escobar, rappelé en 94. Ce joueur qui avait marqué contre son camp et qui après s'être engueulé avec des supporters dans une boîte de nuit a été tué à la sortie de la boîte de nuit en rentrant de la Coupe du Monde.
Ouais.
Et là, du coup, il y a une enquête ouverte en Colombie contre ces menaces, contre le pauvre Carlos Sanchez, dernières heures.
Et heureusement qu'il y a une enquête.
Bon, sinon, au niveau mercato, j'ai rien. Si, j'ai un truc.
Ah.
Le jeune Bandia de Lens, bientôt transféré à la Roma. Jeune défenseur. 4 à 6 millions. J'ai pas son âge.
Ça nous paraît pas grand chose pour nous, mais pour lui, c'est important.
Voilà.
Déjà,
contrat de 5 ans pour ce jeune.
19 ans, déjà.
Messieurs, dames, dans quelques instants, le journal moyen et le quiz. Pour conclure l'after, je vous rappelle les scores du jour. L'Allemagne bat la Suède dans le traditionnel 2-1. Le Mexique bat la Corée du Sud 2-1. Et la Belgique de Sacha bat la Tunisie 5-2. À tout de suite.
La Belgique de Sacha. Ça fait
RMC After Russie 2018, Gilbert Bribois.
L'After est là jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport. Le quiz dans quelques instants, messieurs, dames. Le 32-16 est là pour vous, si vous voulez participer au quiz. Mais avant le quiz, c'est le journal moyen de Rémi Perrault. Rémi, bonsoir.
Bonsoir, messieurs.
Salut Rémi.
Bonsoir.
C'est parti.
C'est parti pour le journal moyen. Un Jérôme Rotten en transe, un Jean-Michel Larquet pas content, et une interview exclusive qui devrait faire trembler la République. Bienvenue dans le 19e journal moyen de l'histoire de la Coupe du Monde.
Direct de la rédaction de RMC Sport, c'est le journal moyen de la Coupe du Monde, Rémi Perrault.
Et mon nom maintenant, Gilbert, salut. Doubida bada, c'est mon jingle onomatopée bouche.
Très bien.
Je le changerai à chaque fois, ça te va?
Ça fait pas mal.
Et on commence tout de suite avec notre rubrique journalisme et déontologie. Bon, que la presse française soit pour l'équipe de France, ça semble plutôt logique, n'est-ce pas? En revanche, vous m'expliquez pourquoi, lors d'un Mexique-Corée du Sud, elle est à fond derrière les Mexicains. C'est pas très sympa pour les Coréens, ça. Jérôme Rotten, cet après-midi sur RMC.
Le contre-pied, le Mexique mène 1-0 dans cette partie.
Mexico!
Je pense que Jérôme est de mèche avec parrain du cartel de...
Bon alors Eric Guilico a une explication, mais vous messieurs, d'où vient cette passion pour le Mexique chez Jérôme Rotten?
Bah c'est dans les vacances peut-être.
Ah non, moi je sais moi.
Toi tu sais Pierre,
c'est qu'il est tellement mauvais dans les paris depuis le début de la Coupe du Monde qu'il avait parié le Mexique.
Exactement.
Et voilà.
Moi,
non, c'est pas ça.
Je pense que c'est l'amour pour les Latinas, moi, je suis sûr.
Et non, même pas Jérôme Rotten.
Leur mode de préparation?
Non, sa justification c'est qu'il est très pote avec Rafa Márquez.
Ah voilà.
Il dit ouais, c'est mon pote Rafa Márquez.
Ah mais il a joué avec lui à Monaco.
Bah, voilà, exactement. C'est une bonne raison.
Ah oui. Mais il a pas pu faire des placements financiers.
Oui, sûrement.
Mais comme les Latinas, ça doit être une raison aussi.
Oui, ça peut être. C'était aussi une bonne raison, Sacha.
Rafa Márquez, Latina.
Ouais. Bah quand même, les gars, on a voulu vérifier cette info. Un journaliste d'investigation. Est-ce que Jérôme Rotten est vraiment pote avec Rafael Márquez? Élise Lucet sort de ce corps. On a appelé Rafa Márquez. Il était en train de jouer. Il a donc répondu vraiment très très rapidement. C'est une exclusivité RMC Sport. C'est incroyable. Écoutez.
Jérôme Rotten? Non, je ne connais pas de Jérôme Rotten. Laissez-moi tranquille, monsieur. Laissez-moi tranquille. Je dois jouer. Je dois retourner sur la pelouse. Laissez-moi tranquille.
C'est lui, en plus.
C'est incroyable, hein?
Ouais, incroyable.
Alors, déjà, une info. Márquez répond au téléphone en plein match. Surprenant. Ouais. RMC au plus près de la Coupe du Monde. Et autre info. Donc, Rafael Márquez ne connaît pas Jérôme Rotten, hein. Vous en avez maintenant la preuve irréfutable. Jérôme Rotten. Bon, c'était moi qui l'avais fait, hein. C'est pour pas tromper nos auditeurs. Je pense qu'ils s'en doutaient.
Avec le chapeau.
Ouais. Et toujours au rayon mytho, Jean-Michel Larquet, 9h29 ce matin sur BFM Sport.
Je sais pas si vous êtes amateur de bière, messieurs.
Non. Oui, je n'ai jamais bu de ma vie.
Voilà.
Wow.
Jean-Michel Larquet.
Amateur de quoi? De bière?
De bière, ouais.
De bière.
La réponse de Jean-Michel Larquet. Non, j'en ai jamais bu.
Il a dit, j'en ai jamais bu de ma vie.
Ouais.
Ça c'est possible.
Peut-être
qu'il aime pas.
Connaissant le capitaine Larquet.
Exactement. Ouais. C'est possible.
Tu crois?
Plutôt. Ah, tête de bois, le capitaine Larquet.
Ah bon?
Il a décidé qu'il doit,
plutôt vin, mais peut-être pas bière.
Ouais, bon. Bah, tu le connais mieux que moi, je te fais confiance. Allez, on reste sur la planète Jean-Michel Larquet. Il était en compagnie de Johan Tritz ce matin sur BFM Sport. Alors Johan Tritz, c'est un gentil journaliste tout mignon qui voulait nous parler du séisme provoqué à Mexico. Pardon, lorsque l'équipe nationale a marqué le but de la victoire face à l'Allemagne. Vous l'avez sûrement entendu, hein, cette info. C'est vrai que c'est une info un peu dingue. Mais pas pour Jean-Michel. Séquence gros malaise.
Cette célébration, en fait, a provoqué un mini-séisme au Mexique, à Mexico. Un mini-séisme à cause des sauts. On va le voir, regardez, 11h30 au Mexique, et hop, un mini-séisme.
Je sais pas s'il faut s'amuser avec ça au Mexique, quand on sait ce qu'il était advenu juste en 85 au Mexique, où là, il y avait eu un vrai séisme.
Là, c'est un mini-séisme.
C'est un peu too much.
Ouais. Tout va bien pour l'instant, il n'y a pas eu de problème au Mexique avec ça, c'est un mini-séisme. On essaie quand même de sauter moins fort lors de la prochaine rencontre. Voilà. Donc 30, c'est fou, un petit peu.
En plus, il a une tête de
voilà.
Il s'est fait bizuter par le capitaine Larquet.
Je l'ai récupéré en dehors du studio, à la cuillère.
Ah ouais. Ça allait
ce matin, il a mis un peu de temps à récupérer, mais ça va mieux.
C'est un peu dur. Le mieux, c'est le regard de Johan à la fin en mode, mais qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Pourquoi il m'embête? Allez, sans transition, passons à quelque chose de beaucoup plus grave. Les journalistes qui disent n'importe quoi à l'antenne. Fake news, complot, conflit d'intérêts, tout ça, quoi. Souvenez-vous, la semaine dernière, on s'était bien moqué d'Ali Benarbia. Ah, ce con, il sait même pas parler français, il invente des mots. Écoutez, c'est la séquence journal moyen du journal moyen de la semaine dernière.
Je touche, je ne touche pas, mais la touche. Pour dire, je veux pas montrer flagramment pour dévier le ballon.
Flagramment.
Ça existe flagramment ou pas?
Flagramment,
non, je t'en cherche.
Flagrant, mais... En plus, on dit flagratam, je crois, en plus. Mais bon. Flagramment, n'importe quoi, on dit flagratamment. Bon, vous me voyez venir. Arnaud Souk, en fait, avait raison. J'aurais peut-être dû vérifier un peu plus. Flagramment, eh bien, figure-toi que ça existe, Ali Benarbia. Dioups, je m'a trompé. En même temps, on peut pas être beau comme un camion, super baraqué, humble et en plus vérifier toutes ces infos. On peut pas tout avoir. N'est-ce pas toi, Pierre?
Non, mais flagramment, qui utilise ce mot-là, pareil?
C'est vrai, la dernière fois que ça a été utilisé, je pense que c'était en 1827. En tout cas, t'as pas inventé un mot, Ali.
J'ai des paniers à faire.
Peut-être du côté, faut aller du côté de Joe, Macardy.
Il est fort,
ouais, je crois, ouais. Faut attendre Macardy.
Je crois que c'était au Scrabble, en fait. J'ai dû le sortir, là, flagramment.
Alors, pour terminer sur le sujet flagramment, sachez, messieurs, que je ne suis pas une balance, car jamais je ne vous dirai que c'est Thibaut Jurgand, présentateur vedette de BFM Sport, qui m'a envoyé un mail à 9h50, le 17 juin dernier, dans lequel il écrit, je cite, deux points, ouvrez les guillemets, Ali à l'antenne, c'est un festival, il invente des mots. Merci, frère. Tu l'as bien aidé.
Comment il se fait,
ce couteau dans le... Ali, par le comportement de Thibaut.
Ah non, j'adore, moi.
C'est vrai?
J'adore.
Okay, cool. Passons alors à la séquence « Je m'ai trompé dans la conjugaison ». Ali Benarbia, le 16 juin à 9h24 sur BFM Sport.
Je suis content de revoir Kier, ça fait, c'est un joueur que j'aime bien.
Ah ben voilà.
Ça fait plaisir.
Surtout aujourd'hui, c'est sympa de voir Kier aujourd'hui. Magnifique, magnifique Pierre.
Alors c'était pas ce son-là qu'on devait écouter à la base.
Ça c'était moi.
C'était la blague de Pierre Ducrot. J'aurais bien aimé que tu nous expliques. En fait, on l'avait écouté la semaine dernière avec Gilbert.
Un petit jeu de mots, c'est un joueur qui s'appelait Kier.
Oui.
J'ai juste dit c'est sympa de revoir Kier aujourd'hui.
Ouais.
C'est bien. T'as toujours pas mal.
Si, j'avais compris.
C'est vrai qu'il fallait rajouter aujourd'hui.
Comme tous les jeux de mots, c'est un peu lourd, mais c'est voilà, c'est pour détendre l'atmosphère parfois.
Moi j'ai bien aimé.
Joe avait bien aimé. Joe aussi sur le coup.
Je valide. C'était juste pour. J'adore les jeux de quelque chose pour te chambrer.
T'as pas trouvé grand chose.
Ça va, c'est mignon. Et pour terminer, je voulais vous parler de la vraie star de l'équipe de France. Vous voyez de qui je parle. Pour vous, c'est qui la vraie star de
la vraie équipe de France?
De la vraie équipe de France de cette année à la Coupe du Monde en
Mbappé. Je sens venir la vanne.
Mbappé, toi tu dis c'est qui?
Non, je sentais venir la vanne sur un journaliste qui suit l'équipe de France à RMC ou un truc comme ça.
Même pas de vanne. Non, pour moi un peu la star c'est N'Golo Kanté.
Ou l'antistar.
Je suis pas ancien joueur du meilleur club du monde, le Stade Malherbe de Caen. Il a l'air sympa. Sur le terrain, c'est un monstre. I love you, N'Golo, pour de vrai. Et je crois que c'est aussi le cas d'un internaute du nom de Dodu qui a composé une chanson dédiée à l'inénarrable N'Golo Kanté.
Vu de l'ombre, toujours prêt au sacrifice. On ne peut nier qu'il a le sacrifice. N'Golo, 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 fais-moi des bisous.
Ah ouais, quand même.
N'Golo, 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 N'Golo.
On va s'arrêter là-dessus. Hein, ce sera pas le tube de la Coupe du Monde, je pense.
Ouais, j'aime bien, c'est un peu électro branché à Paris, tu vois.
Je rappelle qu'on retrouve le journal moyen en podcast tous les jours, comme l'after d'ailleurs. Pas de quiz ce soir, on n'a pas le temps. On le fera demain. On récupérera Abdelhamid et Thomas qui étaient candidats ce soir pour le quiz de demain soir.
Je sentais que c'était bon soir pourtant.
Bah ouais, mais non, on n'a pas le temps.
Face à moi, t'aurais gagné.
On n'a pas eu le temps. Merci les gars, merci à tous. Demain soir, l'after sera là dès 22h, évidemment. Et l'intégrale Coupe du Monde reprendra demain dès 13h. Bonne nuit à tous.
C'était l'after sur RMC avec Paris Job. Paris Job, trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi.
RMC, l'after Russie 2018.